Vous écoutez
RMC.
RMC.
À un moment de la saison, ils ont semblé considérer Nice comme la troisième roue de leur carrosse.
Avec qu'on peut commencer la compétition sur des échappeaux de roue.
Mais j'espère que la roue tourne va vite tourner parce que ça, on en a besoin.
Je me mets dans les roues de Marc Ambrosiani.
Mais oui, parce que
comme on dit dans le vélo, je te suce la roue.
RMC, l'afterfoot.
Jérôme Sillon.
Salut à toutes et à tous, bienvenue sur RMC. L'after continue jusqu'à minuit pour analyser les résultats, l'actualité du jour. L'after à écouter à la radio, à regarder sur la chaîne YouTube de l'after, sur la chaîne After Télé. Et dans l'after ce soir, Walid Acherchour. Salut Walid.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça va, t'es bien rentré de Marseille?
Très bien, tranquille, hein, petit retard ce matin de 23 minutes.
Ouais, mais j'ai connu le même juste après toi.
Mais bon.
Ça, c'est logique. Un classique, non?
C'est la classique,
ouais. Un classique.
Exactement.
On était bien au Vélodrome, Maxime Chiano. Salut Max.
Salut Jérôme, salut Walid, salut à tous. Mais attends, je comprends pas, vous n'êtes pas rentrés ensemble?
On n'est pas rentrés ensemble. Ah, il avait déjà pris son train avant moi.
Exactement.
Okay. C'est moi qui me suis un peu greffé sur l'organisation Vélodrome.
D'accord, il a joué perso, quoi, c'est ça?
Non, c'est juste qu'il était en vacances là-bas.
Il regarde beaucoup le ballon, Walid.
Il est allé prendre le soleil.
Ouais, c'est reposé.
Bon les garçons, évidemment on va revenir sur cette première journée de Ligue 1, ce premier multiplex, du bon, du moins bon, évidemment.
Dingue, pas dingue le multiplex.
Ouais, pas dingue.
Ouais, heureusement, on va dire les choses quand même.
Ouais, heureusement que Lens a un petit peu sauvé
Il n'était pas en multiplex.
Mais en tout cas sauvé la journée, parce que c'est vrai que le multi était très très moyen.
Et puis même on est des habitués du samedi avec Maxime, il va falloir quand même qu'on réapprenne un peu le logiciel de regarder des matchs. Parce qu'il y en a trois, il y en a quatre. Faut en choisir. Moi j'en ai choisi deux et j'ai pas pris le Brest-Le-Mans.
Donc en fait, t'as pas misé sur le bon cheval, comme dirait Franck.
Moi je déteste le multiplex parce que j'aime bien regarder les matchs.
Ouais.
Et le problème c'est que quand tu regardes un peu partout, tu regardes nulle part. C'est compliqué de trouver des analyses avec ce format-là.
Et encore, t'avais pas choisi Nice-Lorient.
Oui, mais là, je pense que c'était plutôt un choix gagnant. J'ai l'impression, en tout cas, que Nice-Lorient 0-0, huit clos.
Ah, une pure.
Bravo à ceux qui étaient devant.
Ah. 32-16 pour intervenir, évidemment, pour parler du résultat de votre club. Je vous les rappelle d'ailleurs les résultats. Lyon a gagné à Toulouse 2-0. Nice-Lorient 0-0. Match nul également 0-0 entre Troyes et le PFC. Et puis, deux partout entre Le Mans et Brest. Demain à 15h, Angers-Lille. À 17h15, Le Havre-Monaco et à 20h45, Rennes-PSG. On parlera d'ailleurs de Rennes-PSG, de l'inversion du match encore dans quelques instants. 32-16 pour intervenir. Vos messages également sur WhatsApp 06 12 424 424. C'est parti pour l'after.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Avant de débuter sur la Ligue 1, d'abord, le Real Madrid qui fait son début également en Liga ce soir sous les yeux d'Edgar Grollo. Le Real en déplacement sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Salut Edgar.
Salut Jérôme, salut tout le monde. Un partout après 54 minutes de jeu entre l'Espagnol et le Real Madrid. Le Real qui avait bien débuté avec un but de Jude Bellingham à la 9e minute. L'Espagnol est revenu dans le coup à la 30e. Et depuis, le Real a du mal. Il y a eu quelques grosses occasions pour l'Espagnol qui auraient pu même passer devant. Mais à l'instant, quand même, une énorme opportunité avec une nouvelle tête de Jude Bellingham et une superbe parade de Dmitrovic qui fait un sacré match, le portier serbe de l'Espagnol de Barcelone. 55e minute de jeu, un partout donc entre l'Espagnol et le Real Madrid.
Merci Edgar. Tout de suite, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Les 3 points de Walid Acherchour dans l'after ce soir.
Bah, mon premier point, c'est le gros coup lyonnais. Le gros coup lyonnais avec la rotation excessive de Fonseca qui finalement paye. Parce que avant le gros match contre Fenerbahçe, on avait eu pas mal de. Pas mal de mouvements et avec les rentrants Tolisso, Schulk et Malik Fofana entre autres, ils ont réussi à sortir de ce piège toulousain et c'était pas donné au vu de la première mi-temps. Mon deuxième point c'est Lens et la découverte, la redécouverte du jeu de Topmöller contre Auxerre où cette équipe-là elle a quand même gagné largement, même si pour ceux qui ont regardé le match, l'arbitrage a quand même pesé dans la balance. Il faudra encore en parler parce que moi je trouve que sur la première mi-temps ça a quand même donné le ton du match, mais sur les Indiens il y aura des choses à dire. Et mon troisième point c'est le PFC. PFC faudra faire plus parce qu'ils doivent gagner le match sur la fin de la rencontre. Ils ont des grosses occasions, mais j'ai trouvé que c'était pas assez face à un promu troyen qui a été valeureux.
Bon, Walid, il a fait un peu long, mais c'est normal, c'est le multi. Donc, du coup, il faut prendre ses marques aussi. Et c'est des choses qui arrivent, évidemment. On se rôde, c'est la première journée de Ligue 1. Max, tes 3 points.
Bah, écoute, des points similaires à ceux de Walid. Je vais commencer par le Racing Club de Lens, Lens Puissance 5, hein, qui continue sa très belle semaine après le Trophée des Champions. Voilà, ils sont venus étrier un AG Auxerre. Alors, bien aidé par l'effet de jeu, c'est vrai, hein, notamment les deux pénalties, le carton rouge qui change un petit peu la physionomie du match, mais surtout des individualités intéressantes, notamment Thauvin, le doublé. Donc, voilà, top. Très heureux aussi de voir qu'un top baller a tout de suite donné son empreinte un petit peu dans la continuité de Pierre Sage. Donc j'attends vraiment de voir ce que ça a donné, mais je pense qu'il va falloir compter sur ces Lensois cette année. Lyon, c'est mon deuxième point, et notamment le turnover imposé par Fonseca, voilà, coaching gagnant, eux qui vont pouvoir se préparer sereinement contre Fenerbahçe, un match à 23-24 millions d'euros. Donc autant te dire que c'est le match de l'année pour les Lyonnais. Et mon dernier point, c'est les Niçois qui ne vont pas mieux malgré le changement d'entraîneur. J'ai vu un match triste à mourir.
Non, vous m'avez pas parlé des promus, les garçons. Le Mans qui prend son premier point, Troyes qui prend son premier point. On va y venir.
Oui, on en parlera, même si. Oui, de toute façon, c'est un peu l'éclaircie de la soirée, les belles histoires, les Manchots et les Troyens qui vont prendre leur premier point.
On va parler de Lyon pour commencer. 32-16 des supporters lyonnais pour intervenir. Vos messages également sur WhatsApp. Une belle image qu'on a vue depuis le stadium avec les joueurs lyonnais qui ont brandi la banderole qui avait été ramenée par les Badgones et notamment tous les supporters lyonnais qui avaient fait le déplacement à Toulouse. Ensemble pour la qualif. On voit quand même qu'il y a cette belle communion entre les joueurs et leurs supporters à Lyon avant ce match. Le pari gagnant donc de Paulo Fonseca. Pas un joueur qui était titulaire lors du barrage aller de Ligue des Champions face au Fener qui ont débuté la rencontre de ce soir à Toulouse. C'était un choix quand même très risqué et ça a payé, Walid.
Oui, choix très risqué. Après, ça reste qu'une J1. C'est la première journée de championnat, donc même une défaite contre Toulouse par rapport à l'impact qu'a ce match contre Fenerbahçe. Je pense que ça aurait été à relativiser quoi qu'il arrive. Moi, j'étais pas contre le fait de remanier son équipe, même si il faut le dire. Quand je parle de gros coups, c'est aussi un gros coup parce que sur la première mi-temps, il y a des grosses occasions toulousaines, même en début de deuxième mi-temps. Jorgensen, c'est comme ça qui s'appelle.
Thomas Jorgensen.
Que j'ai beaucoup aimé, moi, du côté de Toulouse, a été remuant. Il y a une énorme occasion aussi de tape qu'il rate face au but après un arrêt de Décamp. Donc ils ont été chahutés, hein, les Lyonnais sur la première mi-temps. Et c'est plutôt logique par rapport au manque d'automatisme et par rapport à certaines recrues qui faisaient leur début. Mais ils ont réussi à faire le dos rond. Et derrière, avec les entrées de Tolisso, qui a fait beaucoup beaucoup de bien, celle de Malik Fofana, celle de Schulk notamment, ils ont réussi à être beaucoup plus clinique avec ce but de Narté, avec un peu plus d'espace. Donc bien évidemment que le résultat donne raison à Paulo Fonseca, mais moi je pense que globalement, que ce soir ils auraient pu aussi perdre cette rencontre. Et quoi qu'il arrive, je vais pas dire qu'il a sabordé ce match-là, mais que les 3 points de ce soir n'étaient pas une priorité, et c'est ce qui nous a envoyé comme signal. Maintenant, dans cette victoire-là, tu sors renforcé parce que ton groupe t'envoie un signal de compétitivité. Il y a 2-3 éclaircies, parce que moi je découvre Bidstrup par exemple au milieu de terrain qui a eu un gros
énorme moteur.
Voilà, un gros engagement. Atekame aussi, le joueur qui vient de l'AC Milan, que j'ai trouvé aussi très très solide. Bacher qui va sûrement démarrer titulaire à côté de Niakate sur les
Alors
prochaines semaines.
Alors on dit Bacher, hein, pour Bacher, les puristes.
Bacher, bah merci de me reprendre, Jérôme. Lui aussi, ça a été intéressant avec le ballon. Donc et puis le petit Boudache, moi, qui m'excite particulièrement. Il a vraiment un football qui me plaît. Donc dans cette victoire douloureuse, je vais pas dire chanceuse, mais douloureuse de la part de Lyon, il y a 2-3 enseignements qui peuvent être tirés positivement pour les Lyonnais.
Ouais, sachant que les Lyonnais, juste au niveau stat, quand même, on voit que Toulouse est à 2-6 en XG.
Oui, bien sûr.
Et Lyon est à 0-6.
Vous allez mettre en occasion. Lyon marque sur son premier tir cadré.
Ouais, exactement. Walid a raison par rapport à Toulouse. Je pense que la première mi-temps, le rapport de force est clairement l'avantage de Toulouse. Il y a eu, il faut pas oublier, un changement d'entraîneur et c'est l'arrivée de Bertel Ascou qui avait dit d'ailleurs en conférence de presse, je me souviens lorsqu'il venait de signer, qu'il prendrait un jeu offensif. Et en fait, il l'a montré sur la première mi-temps, que ce soit avec Boho, tu l'as dit, il y a 2-3 occasions, notamment Jorgensen qui a fait aussi un superbe match. T'as cette grosse occasion sur corner où est-ce que Tapé passe complètement à travers et D'ailleurs, derrière, c'est Bistrup qui vient contrer en taclant un petit peu désespérément et qui vient sauver Lyon. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de la première mi-temps, Toulouse doit être devant. Après, il manque un petit peu d'automatisme aussi parce que tu as des nouveaux joueurs, tu as un nouvel entraîneur et donc tu sens que derrière, sur la dernière passe et sur la finition, c'était pas ça.
Équipe gentille, Toulouse, ce soir.
Ouais, bah, comme tu aimes bien les qualifiés de yaourt, c'est un peu ça. Hein, c'est,
non, équipe c'est... sympa, non, mais surtout, équipe sympa. J'ai trouvé vraiment bon dans le contenu, mais dans la réalisation, très sympathique.
Après, ce qui était intéressant aussi, on en parlera aussi par rapport à Lens, par rapport à Top Moller, c'est que le nouvel entraîneur a gardé cette continuité, cette défense à 3. On aurait pu penser qu'avec le départ de Cresswell, éventuellement, il allait repasser avec une défense à 4. Et non, tu vois, il a reformé cette défense à 3. Donc, ça permet aussi de gagner du temps pour les joueurs toulousains qui ont l'habitude de jouer dans ce dispositif-là. Et puis après, tu savais très bien comment ça allait se passer du côté de Lyon. J'ai pas envie de faire le parallèle avec ce qui se passe, c'est que le Paris Saint-Germain, en règle générale, chaque année, lorsqu'il y a des matchs de Ligue des Champions, où est-ce que Luis Enrique met l'équipe B, et puis lorsqu'il fait rentrer les Gvara, les Désiré Doué, les Dembélé, bah, ça change la vision du milieu du match. C'était quasiment la même chose. C'est la rentrée de Tolisso, de Schulz, de Malik Fofana. Et puis derrière, voilà, c'est Lyon qui déroule. La seule petite remarque que je peux faire, c'est que t'as vraiment une grosse différence de niveau entre le 11 titulaire et le 11 remplaçant. Tu vas me dire, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, Lyon n'a pas les finances pour pouvoir avoir 22 joueurs de très, très haut niveau. Mais c'est ce qui me fait dire que si Lyon devait se qualifier en Ligue des Champions, j'ai quand même ce questionnement. Comment Lyon pourrait maintenir un niveau convenable en Ligue 1, alors qu'ils ont quand même un 11 titulaire qui va remplacer.
Il y a des joueurs dans le 11 qui pourront, je pense, moi, challenger les titulaires. On en a parlé avec Bacher.
Oui, Bistrup, bien sûr.
Je pense qu'il va avoir son mot à dire.
Je pense que Bistrup, c'est même un titulaire en puissance.
Je pense.
Non, après, il y aura de la concurrence. Même un verre qui est intéressant.
Parce que Tessman l'avait trouvé bon contre Fenerbahçe. Donc, il faudra voir avec Morton. Il y a quand même Tolisso. Narté a fait aussi, moi, pour moi, une bonne première heure de jeu. Il est décisif. C'est lui qui marque. Moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, sur Maxime, parce que moi, je pense qu'au contraire, Atekame, la même chose. Je pense qu'il va challenger sur le côté, au poste de latéral.
Surtout si Maitland Niles s'en va.
Bah, exactement.
C'est le but.
Ah oui, bah, c'est le but. Donc, je pense que moi, ce soir, au contraire, moi, je trouve qu'il y a 3-4 individualités.
Ouais, 3-4,
qui...
je suis d'accord.
Oui,
après, mais si tu dois changer l'équipe.
Ah bah oui, bah,
de cette manière, à chaque match.
On le sait.
Et donc, ça risque d'être compliqué, mais ce qui n'est pas forcément le cas avec un Paris Saint-Germain qui a un 11 remplaçant qui est quasiment aussi fort que son titulaire. Donc, en fait, c'est ça aussi la question. C'est très important pour Lyon de se qualifier en Champions League. On connaît les réseaux, notamment économiques. Maintenant, il va falloir comprendre aussi qu'ils vont devoir sacrifier indirectement la Ligue 1.
Et moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont se régaler, qui sont pas régalées ce soir, bien au contraire, mais qui vont sortir indemnes du stadium. Parce que autant l'année dernière avec Novel, c'était compliqué de regarder les matchs toulousains, autant moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce nouveau coach.
Jens Bertelaskou, le Danois qui avait fait briller Motherwell en Écosse.
Et j'ai pas envie de m'enflammer parce que c'est impossible. On peut se retrouver dans un mois en se disant que ça marche pas et que c'est pas fiable et c'est pas compétitif. Mais moi, ce que j'ai vu ce soir en termes d'intention et avec certains joueurs, même les entrants, les jeunes entrants, Azizi notamment, moi je trouve que Toulouse, ce qu'ils ont fait ce soir, ils ont été mal payés sur la rencontre.
On a Paul avec nous, supporter de Lyon, qui nous a appelé au 32-16. Salut Paul.
Oui, bonsoir.
Salut Paul.
Alors déjà, je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Max là, sur le 11 qui était remplaçant qui était beaucoup moins bon que le 11 titulaire. Alors je suis totalement d'accord avec lui, même si je suis aussi un peu d'accord avec Walid sur le côté où je trouve qu'il y a effectivement des joueurs qui sont vraiment très bons, hein, notamment Atekame. Moi, je pense qu'il va vite remplacer Maitland Niles.
Oui.
Mais par contre, enfin, j'ai envie de dire, dans combien de cas de figure ça t'arrive dans l'année de remplacer les 11 joueurs? Parce que là, littéralement, les 11 joueurs, c'était pas les mêmes que mardi dernier.
Ouais, même le gardien d'ailleurs, ce qui est assez rare.
Même le gardien
qui était titulaire.
Donc, en fait, ça arrive jamais. Et je trouve qu'au contraire, moi, j'ai vu plein de mecs où je me suis dit, bah, franchement, dans la rotation, ils peuvent faire le taf, hein.
Non, mais pense à qui, par exemple, Paul?
Bah, Bacher, Barreur, pardon, Boudache. Atekame que j'ai trouvé très bon. Duranville, franchement, tu le fais rentrer en fin de match avec sa vitesse, il peut faire quelque chose. Et puis je pense si tu lui mets un autre latéral gauche que Redouaugo, ça peut faire quelque chose parce que lui, il est catastrophique. C'était vraiment le seul que j'ai vraiment trouvé très mauvais.
Il a été en difficulté alors qu'en prépa, moi, je l'avais trouvé bon, Redouaugo.
Ouais, mais tu vois, par exemple, Redouaugo, il y a un moment donné, on a un coup franc à genre 35 mètres.
Non, il n'a pas été bon.
Il veut faire une passe où, franchement, c'est une passe bidon à 15 mètres, et il arrive à la foutre en corner. Enfin,
après, tu sais, c'est les premiers matchs. C'est les premiers matchs, il y a eu la prépa, il y a eu ces matchs de qualif pour la Champions, mais voilà, je sais pas si tu peux vraiment tirer des enseignements sur les qualités individuelles sur ce genre de match. Encore une fois, je le répète, tu vois, il y a aussi des automatismes à prendre.
as des joueurs qui arrivent. Il faut aussi qu'ils digèrent la préparation, la nouvelle façon de jouer, la culture footballistique qu'est la Ligue 1.
En règle générale, même en match de préparation, je l'ai trouvé mauvais.
Hein. Ah, contre le Real Betis, il avait été très bon, je trouve. Mais bref, pour revenir sur le match de ce soir, l'enseignement, et là où moi je suis d'accord avec toi, c'est que on a encore le sentiment que la cellule a très bien travaillé, quoi. Moi, j'ai le sentiment, là, comme l'année dernière, moi, j'ai le sentiment qu'encore les profils ont été bien définis et qu'on n'est pas sur des, on n'est pas sur des arnaques, quoi. Enfin, j'ai le sentiment, là, moi, avec les joueurs qu'on vient de citer, c'est des profils qui peuvent émerger, c'est des profils qui peuvent progresser et qui peuvent rendre des services à cette équipe lyonnaise dans un contexte sain, avec une concurrence loyale de la part de Fonseca. Et ça, c'est le plus important, je pense.
Sachez que Fenerbahçe s'est imposé 4-2 à Konyaspor ce soir, donc à 4 jours du barrage retour, avec un doublé de Mason Greenwood, notamment.
Vous n'avez pas fait tourner, alors?
Je vais regarder la compo, je vais te la donner si tu veux, mais a priori, ça avait moins tourné.
Ils avaient perdu le premier match, donc c'était un peu plus compliqué pour eux s'ils perdaient le deuxième, quoi.
Ah bah là, c'est pour Fonseca et ses hommes, c'est parfait. Hein. Il a fait tourner, il a reposé ses titulaires, il les a fait rentrer 20-30 minutes, il gagne le match. C'est de bonne augure pour le match.
Les titulaires qui font gagner le match, ça leur donne beaucoup de confiance. Ouais.
Paul, tu bouges pas, on est dans un instant. D'abord, on fait un petit détour par l'Espagne avec le match du Real Madrid sur la pelouse de l'Espagnol. C'est la première journée de Liga. Edgar Grollo.
67e minute de jeu, toujours un partout entre l'Espagnol de Barcelone et le Real Madrid. À noter les entrées, donc les débuts en blanc de Marc Cucurella et de Yann Diomandé. Diomandé qui vient d'un sacré transfert. Il aura beaucoup de pression évidemment sur ses épaules cette saison et dans ses premières semaines.
Merci Edgar, à tout de suite. L'After continue, on est là jusqu'à minuit avec Walid Acherchour, avec Maxime Chano, avec vous au 32-16. On va parler de Lyon, on va parler de Lens, on va parler des promus du Paris FC, les matchs demain également, avec au programme le Rennes Paris Saint-Germain. On écoutera Luis Enrique dans quelques instants. On est là jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Jérôme Sillon.
Avec Walid Acherchour, avec Maxime Chano, avec vous au 32-16, l'after qui continue jusqu'à minuit. On débriefe la première journée de Ligue 1. La victoire de Lyon à Toulouse 2-0, le match nul 0-0 entre Nice et Lorient. Le match nul 0-0 également entre Troyes et le PFC. Et le nul de partout entre Le Mans et Brest. On n'oublie pas non plus Lens qui a écrasé Auxerre 5-2. On en parlera également tout à l'heure avec vous les supporters lensois. Et puis on se projettera sur les matchs de demain avec au programme Angers-Lille, Le Havre-Monaco et Rennes-Paris-Saint-Germain. Germain. Tiens, résultat de Ligue 2 également pour vous dire que Saint-Etienne a battu Grenoble 4-0.
Ils font un gros début de saison.
C'est leur année.
Ouais.
C'est leur année.
Écoute, c'est bon là.
C'est sûr. C'est leur année.
D'accord.
Avec là aussi un jeune entraîneur qui a les mêmes principes de jeu que Jens Bertelascu. Ouais. Lui, pour le coup, il est écossais et il s'appelle Ian Casro, qui est arrivé à Saint-Etienne.
Ils vont un peu mieux que Nantes. Hein.
Ouais, Nantes, on en parlera d'ailleurs parce que Darzakarian a fait une sortie assez incroyable.
Ouais, je crois que c'est la fin pour Darzakarian.
Tu crois déjà?
Ça fait 100 matchs. En tout cas, mais est-ce qu'il n'est pas juste dépassé pour le ballon? Ce brave monsieur qui est, attention, un très grand entraîneur, mais oui, cette nouvelle génération.
Très grand entraîneur, on va dire.
Il y aura un bon entraîneur de notre Ligue, Ligue 2, mais là, j'ai le sentiment qu'il est complètement déconnecté. Ouais. Il a dit que s'il se faisait virer, il arrêtait.
Ouais. Là, je pense que le capot fume, là.
Bon, on en reparlera tout à l'heure. Hein. Supporter nantais, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, évidemment. Tiens, et puis un petit résultat en Allemagne que je ne vous ai pas donné tout à l'heure. La victoire du Bayern face à Dortmund, c'était la Supercoupe d'Allemagne, avec notamment un deuxième but pour les Bavarois, signé Michael Olise. Et en première ligue, deux résultats importants, les défaites de Man United à Hull City 2-0 et de Tottenham à Brentford 3-0. Paul, tu étais avec nous tout à l'heure pour parler de Lyon. Est-ce que tu as un truc à ajouter, notamment en vue du barrage retour de mercredi?
Après, là, ça n'a pas fait d'enseignement pour le barrage, vu qu'on a juste fait tourner, donc les mecs se sont bien reposés et je pense que ça vient bien se passer. Moi, je suis plutôt assez confiant. Mais je voulais revenir sur un truc, si j'ai encore 30
secondes. Vas-y.
C'est, moi, quand vous parlez des XG et dire que Toulouse est mal payé, alors oui, ils ont plus tiré au but, ils ont plus d'occasions, entre guillemets, mais franchement... de la 25e à la 90e, je suis désolé, on est quand même clairement au-dessus. Je veux dire.
Mais XG, c'est vraiment une histoire d'occasion de but. Hein. Oui, donc en fait, en effet, dans le jeu, c'est vrai que Lyon
est. Déjà, c'est trompeur parce qu'il y a cette occasion où déjà, c'est un coup de billard, c'est complètement foireux, ça leur retombe dans les pieds par miracle. Et effectivement, c'est à deux doigts de faire
un. Je trouve qu'ils vous mettent quand même déjà... un petit feu sur les 25 premières minutes. Ils vous mettent un petit feu quand même.
C'est ce que j'ai dit. J'ai dit d'ailleurs, à partir de la 25e à la 90e, pour moi, ils voient
ouais,
pas.
Ouais, mais et l'occasion du Jorgensen, elle arrive à combien?
Ouais, ouais. Celle-ci, avec celle de Tapé qui.
Mais dans ce cas-là, si toutes les occasions ratées, on part du principe.
Enfin, là, c'est pas une occasion ratée quand même. Il déguise toute la défense centrale. Il est face au but et il te la cadre pas. C'est une énorme occasion.
Et Boudage, quand il a trois occasions de passe en fin de match et qu'il la donne pas.
Oui, d'accord. Un match, ça se découpe. Non, mais un match, ça se découpe en plusieurs parties. Pour moi, bien évidemment, que ça se rééquilibre après la 25e et que la dernière demi-heure, t'es bien, bien au-dessus. Et encore plus après le but de Narté, où là, clairement, Toulouse prend un vrai, vrai coup derrière la tête. Et là, t'as des situations. En plus, t'as des meilleurs joueurs qui rentrent. T'as de la connexion entre les joueurs. Et là, tu dois gagner logiquement sur la dernière demi-heure. Maintenant, si tu me demandes sur la première heure de jeu qui doit gagner ou si je dois mettre une pièce sur qui va gagner, je mets plus sur Toulouse en tout cas que sur Lyon. Après, peut-être que je me trompe et c'est pas très grave. Encore une fois, si Lyon a réussi à s'en sortir de cette manière avec ce leadership sur la fin de match, avec les rentrants qui font la différence, et en plus on en a dit quand même du bien, on dit que c'est positif même sur les recrues qui sont en train de s'intégrer. Maintenant, on peut aussi donner notre sentiment sans que ça t'offusque que sur la première heure de jeu, on a quand même le sentiment que Toulouse est mal payé au niveau des occasions franches.
Après, je pense que Paul, ce que tu veux dire, c'est que par exemple sur l'occasion de fin de match de Boudache où il a trois possibilités de passe et il la donne mal, bah du coup c'est pas compté dans les stats. Oui, c'est une opportunité.
C'est pour ça que les histoires d'XG, c'est un petit peu faussé en fait.
Si tu me dis qu'ils sont mal payés et après tu me parles, oui, si le match se finit à la 60e minute, oui, bah oui, d'accord, avec des si, effectivement, ils sont mal payés.
C'est pas avec des si.
Je trouve que sur 90 minutes, ils sont pas mal payés. Très honnêtement, ils peuvent mettre un but. D'accord, mais
je trouve sincèrement, si pour toi Axel Tapp qui est devant le but vise ne marque pas et Jorgensen, les deux occasions de Jorgensen, toi tu marques sur ton premier tir cadré à la 60e minute, je te dis juste qu'après la 60e, oui, Lyon mérite de gagner parce que le match là, le momentum a complètement changé, mais sur la première heure de jeu, Toulouse doit ouvrir le score.
Et puis si on parle uniquement de...
Non mais juste pour lui poser la question, Toulouse ne doit pas ouvrir le score dans ce match-là ?
Paul ?
Si, je suis totalement d'accord avec toi.
Si Toulouse ouvre le score, c'est pas le même match quand même, rassure-moi.
Oui, mais en fait, tu présentes tout avec Dessy en disant ils sont mal payés. Oui, mais avec Dessy, je suis d'accord.
Après, t'as jamais fait de match de débrief de match. Tu fais jamais de débrief de match quand Lyon perd en ayant les meilleures occasions. Tu dis pas c'est cette occasion-là, elle aurait pu les temps forts, on aurait dû les maximiser. C'est en fait l'histoire des débriefs de match, Paul. Excuse-moi, sinon qu'est-ce qu'on fait ?
Et puis Paul.
Je suis pas d'accord avec le fait qu'ils sont mal payés.
Tu mettais en avant les XG, donc c'est important de comprendre que les XG, en fait, c'est vraiment la statistique qui mesure la qualité des occasions de but. Donc c'est-à-dire que quand Tapé est à un mètre du but et loupe cette occasion-là, quand il y a une double occasion, évidemment,
évidemment que les XG, avec les deux frappes qu'il y a sur cette action, ça doit faire un déjà.
Et c'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est pour ça qu'il faut pas forcément se fier au XG, parce que derrière, en deuxième mi-temps, quand Boudache a ses trois possibilités de passe, ça doit faire but tous les jours. Bah le XG n'est pas forcément beaucoup plus haut. Donc voilà, il faut quand même que tu arrives à comprendre que les XG, finalement, c'est un petit peu faussé. Je trouve que sur la globalité du match, Toulouse a au moins trois ou quatre grosses occasions. Et genre, je te dirais pas que c'est bien payé pour Lyon de gagner 2-0, mais ça aurait pas été volé si Toulouse avait marqué un ou deux buts supplémentaires.
Merci Paul d'être venu au 32-16. On accueille Hervé, également supporter de l'OL. Salut Hervé.
Oui, salut. Vous m'entendez bien?
Vite, très bien. Victoire 2-0, je le rappelle, de Lyon sur la pelouse de Toulouse ce soir, avec notamment un deuxième joli but de Malik Fofana et puis un but de Noah Narté également, qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison. Hervé, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur l'OL?
Ouais, alors moi, je suis beaucoup plus nuancé que Paul. Je vous rejoins un peu, d'ailleurs, jusqu'à la 60e, Toulouse, ils sont au-dessus. Mais c'est le choix du staff de Fonseca. L'animation défensive avec les ailiers qui cadrent les centraux, qui libèrent les latéraux, ça crée des boulevards, ça crée 20 mètres à ce niveau-là. Ils ont 20 mètres pour créer le jeu, les latéraux, même s'ils sont nouveaux en Ligue 1. Bon, mais ils se sont régalés, quoi. Les décalages, ils ont tout le temps été créés. Après, c'était Narté et Bistert qui sortaient sur les latéraux. Et c'était n'importe quoi. On fait la même animation mercredi, on s'est mangé.
Après, ce sera pas la même équipe, pas le même impact, pas le même rendez-vous,
pas le même adversaire,
pas le même stade.
Ouais, ben justement, si tu fais les mêmes choix tactiques.
Oui, non, mais tu feras pas les mêmes choix tactiques. Là, pour le coup, pour le coup, t'as toute l'équipe qui manque. On va pas tous les citer, tout le monde les connaît. Mais
raison de plus.
Mais moi, c'est pour ça qu'en fait, globalement, même si Toulouse avait ouvert le score, moi, j'en aurais pas voulu à Fonseca et Lyon. Tout à l'heure, Maxime a répété l'enjeu. 24 millions d'euros aujourd'hui. Pour le football français, c'est tellement important. C'est tellement vital pour l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est pas très grave. Maintenant, on analyse ce match-là. Et malgré ça, ce match bonus, même si on en a parlé hier avec Daniel, pour moi, c'est une honte de ne pas avoir,
reporté le match.
Parce que l'année dernière, Strasbourg.
Oui, le deux poids deux mesures par rapport à Strasbourg et Paris.
Et le PSG avait reporté le match, mais maintenant, dès que t'as décidé de le jouer et de le jouer de cette manière, mais c'est un jackpot de gagner 2-0 de cette manière avec les rentrants, en plus Malik Fofana qui se met en confiance alors qu'on lui demandait de l'efficacité dans le dernier geste. C'est super en fait. Il y a que du positif ce soir pour l'Olympique Lyonnais.
Le seul négatif, c'est que Fofana il a pris 5 millions de plus et que la Roma va encore être plus chaud pour le recruter, non ?
Surprenant quand même de le faire jouer ce soir.
Pourquoi ?
Bah dans le cadre où t'aimerais en tout cas le vendre, alors que tu le fasses jouer contre Fenerbahçe parce que
mais là, tu le fais entrer, Max.
Il faut du rythme.
Mais tu lui donnes quand même la possibilité, en tout cas, de pouvoir. Alors, je ne veux pas être pessimiste, mais la possibilité de pouvoir se blesser, éventuellement de pouvoir louper un transfert qui serait un peu important pour l'Olympique Lyonnais.
Il se blesse contre Fenerbahçe, il se blesse contre Toulouse.
Moi, je pense que c'est l'inverse. Moi, je pense que
c'est un match en jeu. Donc, je comprends que tu as besoin de toutes tes forces vives pour te qualifier, pour aller chercher les 24 millions, on a parlé, qui seraient consécutifs à la qualification en Champions League. Là, tu es sur 30 minutes contre Toulouse, 20 minutes. Je ne suis pas sûr qu'en tout cas, si j'étais président, directeur sportif ou entraîneur, je prendrais le risque de faire jouer juste une petite chose par rapport au choix de Fonseca, et n'ayez aucune crainte. Fonseca, 0-0, avec tout ce qui s'est passé au match aller au Sparta Prague, je peux te dire que là, il va revenir à quelque chose de très pragmatique. Il l'a montré sur le match retour contre Prague, il l'a montré sur le match aller contre Feyenoord. Donc ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de dinguerie de la part de l'entraîneur.
Et vous croyez pas que.
Pas comme ce soir.
Vas-y,
Hervé. Par contre, Tesman, on en parle de la passe sur le deuxième but. Elle est incroyable.
Non mais même globalement même Tolisso, parce que même Tolisso sur la grosse occasion là, il fait la passe intérieure. Non mais moi sur les 25 dernières minutes, ils ont été vraiment vraiment bien l'Olympique Lyonnais. De toute façon globalement moi j'ai beaucoup aimé aussi la première mi-temps contre le Fenerbahçe. Cette équipe là elle a quand même la leçon bien apprise et moi je pense que il y a tout pour sortir les Turcs dans 3 jours.
Avec le retour de Sulc en plus, ça va être vraiment un atout supplémentaire pour l'Olympique Lyonnais.
Et là, tu penses que la direction de l'OL, elle est plutôt contente que Malik Fofana ait marqué ou pas? Parce que finalement, c'est une bonne chose pour l'OL s'ils arrivent à le vendre avec quelques millions supplémentaires.
J'espère que sa valeur marchande ne dépend pas d'un but contre Toulouse. Enfin, ça pourrait être le cas, mais j'imagine que c'est pas forcément le cas.
Ça peut être le petit déclic pour le dirigeant qui se dit, finalement, il est en forme, je vais le prendre.
Non, ça serait peut-être différent, au contraire, si Lyon devait se qualifier en Champions League, parce qu'il y aurait des intérêts sportifs, évidemment, à garder Fofana, si tu veux faire bonne figure en Champions League.
La vraie question, c'est est-ce qu'ils seront en Ligue des Champions ou pas, et s'ils sont pas en Ligue des Champions, faudra le sortir.
C'est ça, exactement. Exactement.
Hervé, t'es confiant pour mercredi ?
Oui, avec le match aller, surtout si Fenerbahçe remet les deux tours jumelles devant en avant-centre, pour moi ça c'était une grosse erreur et je serais très confiant.
Merci Hervé.
Bonne soirée.
L'OL qui a donc gagné 2-0 à Toulouse ce soir avec un 11 complètement modifié par rapport au barrage aller de Ligue des Champions face à Fenerbahçe. C'est la très bonne nouvelle, c'est le gros coup des Lyonnais, le pari gagnant de Paulo Fonseca qu'on attend toujours en conférence de presse et qui devrait arriver d'ici quelques instants. Je le vois d'ailleurs en conférence de presse, vous allez me dire en régie si on peut l'écouter ou pas. En attendant, on va d'abord aller prendre des nouvelles du Real Madrid. On s'approche de la fin du match, Edgar Grollo.
Et ça va pas mieux pour les hommes de José Mourinho. Un partout entre l'Espagnol de Barcelone et le Real Madrid. 80e minute de jeu. Et c'est très, très, très poussif. Alors, il y avait eu, 15-20 très, très bonnes minutes en première période. Et depuis l'égalisation de l'Espagnol à la 30e, c'est vraiment poussif côté Real Madrid. Là, ils viennent de faire à nouveau trois changements en faisant notamment rentrer Eduardo Camavinga, le français, et Carlos Espi aussi, l'avant-centre pur buteur, lui arrivé de Levante et qui peut justement leur servir, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent dans ce genre de match, ce genre de scénario où évidemment en face tout le monde est derrière et c'est un bloc bas pour résister aux offensives madrilènes. 80e minute de jeu, un partout entre l'Espagnol et le Real.
Merci Edgar. Paulo Fonseca en conférence de presse après la victoire de Lyon 2-0 à Toulouse. On écoute l'entraîneur, le manager de l'Olympique Lyonnais. Les choix notamment d'avoir aligné 11 joueurs différents au coup d'envoi.
Aujourd'hui, en ce moment de la saison, est difficile d'avoir les joueurs prêts pour faire match de 3-3 jours. Après le match de Fenerbahçe, j'ai décidé de changer toute l'équipe. Et quand on a commencé à préparer le match. Était impossible de commencer avec les joueurs qui ont joué parce qu'ils ont récupéré. Et on a commencé à préparer les stratégies avec ces 11 joueurs, avec l'équipe de réserve. Était l'équipe de réserve qui a proportionné aussi cette préparation. Ils ont fait comme nous avons pensé que Toulouse a fait. On a confirmé aujourd'hui. Et on a préparé vraiment avec cette 11 joueurs cette match.
Voilà, Paolo Fonseca, on va écouter une deuxième réponse. Visiblement, ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont travaillé avec les jeunes joueurs de l'équipe réserve de Lyon. Ils ont allié donc le 11 qui a été ce soir, donc face aux jeunes, avec l'idée de se préparer à affronter Toulouse. Alors, Paolo Fonseca.
Oui, aujourd'hui, pour moi, est difficile d'individualiser. Parce que je suis vraiment content avec tous les joueurs. Avec tous les joueurs. Noah est un joueur qui a des qualités. A besoin d'avoir plus intensité sans ballon. Mais aujourd'hui, je pense que tous les joueurs ont joué très, très bien. Je suis vraiment content parce que est un match que je sens que, OK, j'ai ici des joueurs qui sont prêts pour aider l'équipe. Si nous avons besoin, ils sont prêts. Pour moi, apporter beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance.
Voilà, Paolo Fonseca en conférence de presse, évidemment, on reste à l'écoute et on le réécoutera s'il donne plus d'informations en vue du match de mercredi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la victoire de Lyon face à Toulouse. Dans un instant, on va parler de Lens, on va également parler des promus, du Paris FC, comme tu le voulais, Walid, après le match nul du PFC, 0-0 à 3. Je vous rappelle que Nice et Lorient ont également fait match nul 0-0. Le Mans-Brest, 2-2, la victoire de Saint-Etienne en Ligue 2 face à Grenoble, 4-0. On va parler également du PSG de Nantes d'ici minuit. L'after continue avec Walid Acharchour et avec Maxime Chano. À tout de suite.
RMC, l'after foot.
Jérôme Sillon.
Avec Walid Acharchour, avec Maxime Chano, avec vous au 32-16 et sur le WhatsApp de l'after également. Vous continuez à nous écrire. Nicolas d'ailleurs qui vient de nous dire Lyon a fait comme Paris et confie son équipe à un coach avec une vision. On voit dès ce soir que ça semble être un bon choix si on le laisse bosser. Lyon qui a donc gagné à Toulouse 2-0. On parle de Lens désormais qui a battu Auxerre 5-2. C'était en fin de soirée, en fin d'après-midi plutôt, début de soirée, avec un doublé de Florian Thauvin sur penalty, un but d'Ivan, un but d'Abdoulhamid et un but de Ganyu Namazo sur penalty. Et si pour Auxerre ont marqué durant cette rencontre qui a été marquée par des choix également importants, des décisions arbitrales importantes. Walid, la victoire de Lens avec la sauce Dino Topmöller, c'est ce que tu voulais nous dire.
Oui, globalement mérité, avec encore une fois beaucoup d'ambition dans le jeu, avec aussi des largesses un peu défensives, on l'a vu même à 11 contre 10, parce que son jeu énergivore où il va faire du man-to-man en allant chercher très très haut, ça implique aussi des espaces, et heureusement qu'il a des défenseurs très très mobiles, avec un Gagnou qui a encore été monstrueux, qui a mis un but d'attaquant mais qui a aussi colmaté pas mal de brèches, et voilà, on continue de découvrir le logiciel Topmöller, où ils ont été plutôt matures et défensifs contre le Paris Saint-Germain parce qu'il le fallait face à la meilleure équipe d'Europe, et surtout en supériorité, en infériorité numérique. Là, ils ont été en supériorité numérique et ils gagnent ce match-là, même si bien évidemment que dans l'analyse c'est compliqué quand même, Jérôme, d'être dithyrambique sur Lens, parce qu'il y a quand même deux décisions pour moi qui sont très très litigieuses, qui sont très très sévères pour Auxerre. Pour moi, le pénalty, il n'y a jamais péno. Le premier. Pour moi, le premier.
Ouais, c'est vrai que Gagnou pousse Gagnou, le pied fort, c'est qu'il se plaint pas, en fait.
Oui. Gagnou, il pousse la main forte, ouais, de pied forte. mais en tout cas, pour moi, je vois pas pourquoi. En fait, si on siffle ces pénaux-là, en fait, je comprends plus. Et puis même le carton rouge, je le trouve sévère. Et c'est quand même deux décisions qui vont dans le sens de Lens et qui tuent le résultat final. Et pourtant, moi, je me suis embrouillé avec Daniel hier là-dessus, où moi, je le trouvais très très sévère sur Elmour Abed et sur le penalty de Guéladoué. Là, pour le coup, ça s'y prête un peu plus, je trouve. Ouais.
Je suis d'accord avec toi là.
Max, avant de t'écouter, on va d'abord prendre Julien, supporter d'Auxerre, parce que justement, il a envie de parler de l'arbitrage de ce soir au Stade Bollard. Salut Julien.
Bonsoir à tous.
Salut Julien.
Salut Julien, t'étais dans le parkage, toi t'étais à Bellart.
Ah oui, voilà, je viens de rentrer chez moi à l'instant, j'étais en parkage.
D'accord, raconte-nous alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé pendant le match?
Bah écoutez, moi le pénalty, de là où on est en parkage, et on voit bien que Gagnon il tient pied fort, et en tenant pied fort, c'est là que la balle elle vient lui taper sur la main. Ouais. Pour moi, il n'y a pas, et en plus, il ne va même pas vérifier.
Ouais, c'est dingue.
Ouais, c'est, encore, il aurait pu aller voir. Franchement, il aurait pu aller voir.
Moi, pour moi, s'il va voir, il n'y a pas pénalty.
C'est possible.
Et puis, moi, je vous le dis, les gars, j'ai plein de copains, vous savez comment ça se passe, nous, les petits amateurs. J'ai des copains qui sont pour le PSG, l'OM, tout ce que vous voulez. Ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont envoyé des trucs en me disant « Ouais, vous êtes fait carotte, les gars. »
Ouais, après, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est aussi la réaction de Piedfort. Le mec, il se fait pousser. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un nouveau et qu'il n'a pas osé aller parler à l'arbitre? On l'a vu hein, sur deux, trois actions. D'ailleurs, il était peut-être trop poli. Mais oui. Quand tu as une poussette comme ça dans le dos, eh ben, il faut aussi le montrer, il faut aller se plaindre. Et le fait qu'il n'ait pas, en tout cas, montré son mécontentement, finalement, ça
ouais,
laisse
la possibilité d'aller.
Non, mais c'est une grande différence, Wally. Tu sais, quand tu as 4-5 joueurs qui viennent mettre la pression à l'arbitre, c'est un peu différent.
Ouais, regarde, ok, d'accord, ok, gamin, ok. Mais d'abord, à la base, il y a une erreur. À la base, c'est quand même un canouvard.
Bien sûr.
Je suis désolé, sur un match aussi important, enfin, c'est une gêne, voilà. Grossière. Ils font un début de match qui n'est pas déconnant. Voilà, il y a un moment, tu ne peux pas être pénalisé de cette manière sur une double décision.
Déjà
que Lens, c'est global. Après, globalement, c'est une équipe supérieure. Ils ont été deuxième l'année dernière. Ils ont de la qualité. Quand ça joue à toi, à moi, en une touche, là, il y a une action avec Sima. Ivanovic et Florian Thauvin, exceptionnel. Il y a des occasions, il y a bien évidemment du volume, mais tu peux pas analyser la rencontre en te disant purée, il y a deux décisions contraires à Auxerre qui font complètement basculer la rencontre ce soir.
Jérôme, on repart sur des
débats interminables autour de l'arbitrage qui vont nous tuer les débriefs. C'était le cas hier soir. C'est encore là ce soir. Entre les pour, les contre, les décisions, on a dit l'arbitrage à la Coupe du Monde était intéressant. Là, on va repartir sur ça. Tu te dis, tu regardes le match, tu dis, mais c'est quand même pas possible, quoi. À quel moment ça va s'arrêter, quoi.
Sans oublier aussi le temps de réflexion pour aller siffler les pénalties. Hein. T'avais presque 3 à 4 minutes. Hein. C'était beaucoup trop long. Les mecs qui sont dans la régie, qui sont dans leur camion, je sais pas, il n'y a pas une possibilité d'appeler l'arbitre plus rapidement que ça.
Même le pénalty d'Auxerre, et pour moi, il n'est pas péno.
Eh les gars, moi c'est ce que je pensais qu'il nous a donné une compensation en fait, le pénalty de Namazo.
Pour moi, même le pénalty sur
Cuisance,
pour moi il tape le tibia.
Les deux sont pénalty.
Les deux premières décisions pour moi sont pas.
Par contre, là où moi j'avais envie de mettre en avant, je parlerai un petit peu de la de l'URC Lens un peu plus tard, mais la Auxerre quand même a montré un bon visage. Alors il y a cette arrivée de Will Steele que moi j'avais un petit peu critiqué, que j'avais connoté comme surcoté par rapport à ce qu'il avait fait dans le football moderne. Je vais lui laisser le bénéfice du doute sur cette saison, mais là j'ai trouvé intéressant, notamment quand ils ont pris le carton rouge, ils étaient à 10 contre 11 à l'extérieur contre Lens, et il y a eu ces 15 minutes où clairement entre la 30 et la 45e minute, les Auxerrois étaient plus proches d'aller marquer un but que l'inverse. Donc j'ai beaucoup aimé un petit peu le style Will Steele, très ambitieux, très audacieux, avec beaucoup de courses vers l'avant. Honnêtement, j'attends de voir ce que ça va donner. Je te dis, j'étais pas un grand fan de la mise à l'écart de Pélissier, qui pour moi avait fait le maximum avec l'effectif qu'il avait. Mais je dois bien avouer qu'honnêtement, même si évidemment il y a défaite ce soir contre le Racing Club de Lens, qui est l'une des meilleures équipes de Ligue 1, ils m'ont convaincu, ces Auxerrois.
Julien, bouge pas, on va faire un petit détour par l'Espagne, parce que ça bouge entre l'Espagnol et le Real, Edgar Grollo.
Ouais, le Real va aller chercher les 3 points. Le but de Carlos Espi, il a signé exactement pour ça, pour marquer dans ce genre de match complètement fermé. 2-1 pour le Real Madrid face à l'Espagnol. Le but dans le temps additionnel. C'est une action qui est partie de la droite avec Yann Diomandé, avec Kylian Mbappé qui avait provoqué dans la surface de réparation, et derrière Espi qui après un ballon contré a pu terminer à 2 mètres de la cage. 2-1 pour le Real Madrid face à l'Espagnol. Il va rester 3 minutes dans le temps additionnel.
Très beau but, parce qu'il a le calme, la sérénité dans la surface de réparation.
Exactement.
Il fait la petite pause qu'il faut. But très très important, et qui va lui donner une crédibilité dans le vestiaire, dans un vestiaire de fou furieux quand même, avec des grands champions, c'est important.
Et un gros boulot de Kylian Mbappé. On revient à cette victoire, de cette défaite d'Auxerre à Lens, parce qu'on parlait des Auxerrois, défaite 5-2. Avant de donner la parole à Julien, tu voulais ajouter un truc?
Non, je voulais parler de Lens
après aussi. Très rapidement, c'est bien beau, c'est les prestations comme l'année dernière avec Pélissier, et maintenant il va falloir être une équipe de méchants, quoi.
Ouais, mais tu sais, il y a un moment, tu sauras pas, on le verra. Et en plus de ça, si tu perds Kevin Kevin Danois non, parce non, que le mercato n'est
non,
pas
mais
terminé.
Ce soir, il y a rien à dire parce qu'il y a les décisions arbitrales et globalement, ça a été cohérent dans le jeu parce que c'est une équipe qui techniquement connaît son texte. Il y a aucun problème là-dessus. Mais par rapport à l'année dernière, on le répétait débrief après débrief. Ils ont quand même de la qualité dans cette équipe. Il va falloir que ce soit une équipe méchante devant le but et beaucoup plus dangereuse.
Julien, d'accord avec Walid?
Bien sûr, vous voyez les gars, le deuxième but, franchement, le deuxième but qu'on met, il est propre quand même.
Malgré
qu'on ait dit, sur le deuxième but, il est propre. Bon, on part en contre, ok, pas de souci. Après, moi, je vous le dis honnêtement, je pense qu'il va nous falloir un tueur devant quand même.
Ah ouais, c'est alors, Labo Lascari n'a pas joué parce qu'il est prêté par le Racing Club de Lens. C'est lui, en principe, ton avant-centre.
Ouais, ou Théo Bert, tu vois. Donc bon, excuse-moi, mais bon, voilà, ça casse pas des briques non plus, quoi.
Parce que t'en prends 5 ce soir, mais Jovanovic il est un peu imprécis. T'as des grosses occasions, notamment en première mi-temps, où tu peux aussi prendre un peu plus de buts. Donc il va falloir être plus solide.
Julien, merci d'être venu au 32-16. On va parler du Racing Club de Lens. Donc victoire 5-1-2. Alors il s'est passé pas mal de choses. Avant d'accueillir Daniel, je voulais vous faire écouter d'abord Dino Topmeier, l'entraîneur, parce que il y a une séquence qui a été intéressante sur le deuxième pénalty de Florian Thauvin. Il avait la possibilité effectivement de donner le ballon à Houghton Edouard et il a refusé de le faire. Il a expliqué au micro de Ligue 1 Plus que fallait qu'il soit un peu plus méchant cette saison et que peut-être qu'il donnera le pénalty plus tard dans la saison. Mais en tout cas là, il voulait vraiment l'avoir pour lui et marquer ses deux premiers buts. Avant de te faire réagir, Max, on écoute ce qu'en a dit Dino Topmeier en conférence de presse.
Au début, je pense que c'est toujours une bonne signe si tout le monde veut prendre une certaine responsabilité sur le terrain. Houghton, c'est un attaquant. Il voulait aussi lancer sa saison avec un but. Mais par contre, on a aussi une clair rôle. Si Flo Thauvin, il est sur le terrain, c'est lui qui tire le penalty. Et à la fin, c'est lui qui décide s'il laisse tirer un autre joueur ou pas. Je pense que ça n'a pas trop aidé lui dans le moment, mais heureusement, le gardien aussi, il bougeait un peu trop tôt. Il avait cette deuxième possibilité pour marquer.
Max, ouais, parce qu'il faut bien réexpliquer que Thauvin loupe donc il marque son premier penalty sur le deuxième penalty, donc il loupe la première tentative qui est finalement retirée parce que le gardien est parti un peu trop tôt. Et c'est vrai que lorsqu'il marque le deuxième, il y a cette espèce de jeu de regard avec Houghton Edouard. On a senti qu'il y avait un peu de il y a un petit peu un imbroglio entre les deux. Et d'ailleurs, j'ai pas pu lire sur ses lèvres, mais on a compris je dis pas qu'il allait l'insulter, mais qu'il était pas content de la manière dont s'est positionné Houghton Edouard. Bon, on a vu qu'ils sont très potes. À la fin, ils sont serrés dans les bras, c'était réglé. Mais c'est vrai que quand t'es sur le terrain, t'es dans ton match, t'as envie de marquer tes buts, que l'attaquant Houghton Edouard a envie lui aussi de lancer sa saison, ça peut être compréhensible. Il faudrait pas que ça devienne un problème dans le vestiaire, on en a vu avant, mais je pense pas que c'est le cas avec Lens.
On continue à parler dans un instant, mais d'abord Le Mans, Antoine Rabillard, le joueur du Mans FC est en direct sur RMC dans l'After avec Clément Brossard.
Exactement, Jérôme, bonsoir à tous. On est avec Antoine Rabillard. Le match le plus spectaculaire de la soirée, finalement, Antoine, 2-2, avec donc ses premiers buts marqués en Ligue 1 pour le Mans FC et une belle atmosphère aussi, 20 000 personnes. Voilà, ce retour en Ligue 1, ça fait 16 ans que le club l'attendait. Comment tu l'as vécu?
Ouais, forcément, ça fait plaisir parce que bon, on savait l'attente qu'il y avait pour les supporters, pour le club, pour la ville. Ça faisait 16 ans que le club avait pas évolué à ce niveau-là, donc on était content de pouvoir offrir un beau spectacle devant notre public. Maintenant, forcément, on est un peu déçus du résultat. Je pense qu'en menant 2-1, on avait fait le plus dur et prendre un but sur coup de pied arrêté, c'est toujours un peu chiant dans ces conditions. Mais bon, voilà, je pense qu'on a beaucoup donné d'énergie, on a montré un beau visage et le dernier quart d'heure a été très difficile pour nous et ramener un point, c'est un bon début et ça va nous permettre de lancer notre saison.
Qui faisait partie des rares joueurs mansos à avoir découvert la Ligue 1 avant cette année. Hein. Ils étaient 8 sur 11 à découvrir la Ligue 1 sur le 11 de départ.
Antoine, juste, est-ce qu'il y avait aussi la volonté, peut-être la crainte justement de montrer que vous aviez le niveau de la Ligue 1?
Ben, c'est vrai que sur le premier quart d'heure, on a eu beaucoup de mal sur nos ressorties de balles. On avait travaillé un plan de jeu toute la semaine et on s'est très vite enfermé où on a pris des zones de pression. On n'arrivait pas forcément à mettre notre jeu en place. Et je pense que ce premier but qu'on cède, ça nous a réveillé un peu et au fur et à mesure du match, on a pris la mesure des choses et on a été capable de revenir au score juste avant la mi-temps, donc ça nous a fait du bien. Et puis voilà, maintenant faut continuer. C'est la saison va être, chaque point va compter. Donc en tout cas, on va se battre nous jusqu'au bout pour prendre le plus de points possible.
Une question de Maxime Chano pour toi, Antoine. Salut Antoine, félicitations pour ton premier match en Ligue 1 avec Le Mans. Alors toi qui as connu Le Mans depuis plusieurs saisons, t'as donc connu aussi la Ligue 2. Quelle est la grosse différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1 là après avoir joué ce premier match contre Brest?
Bah forcément, c'est beaucoup plus clinique. On l'a vu. Je pense sur le premier but, on fait. Un enchaînement de petites erreurs où je pense qu'on doit centrer en première intention, derrière on doit faire faute, derrière moi je peux parler au milieu de terrain, et puis voilà, sur un renversement face à face c'est but, donc ça pardonne pas, puis le mec est forcément beaucoup plus élevé, la qualité technique, donc voilà, faut prendre la mesure de la chose, mais je suis persuadé qu'avec beaucoup de travail l'équipe va se mettre au niveau très vite.
Merci beaucoup Antoine d'être venu dans l'after, et merci au Club du Mans pour sa disponibilité. Très bonne saison Antoine.
Merci à vous.
Et merci à Clément Brossard évidemment pour nous avoir permis de discuter avec Antoine Rabillard, donc le joueur du Mans, en direct dans l'after sur RMC, de partout entre Le Mans et Brest. Avant de reparler de Lens, c'est fini entre l'Espagnol et le Real Madrid, Edgar.
Et la victoire à la toute fin de ce match pour le Real Madrid, victoire 2-1 finalement, avec l'ouverture du score de Jude Bellingham à la 9e, l'égalisation de Calatrava pour l'Espagnol à la 30e, et donc ce but de Carlos Espi à la 90e minute, son tout premier sous le maillot du Real Madrid.
Bon, à tout à l'heure Edgar, on te reprend d'ici 25 minutes pour débriefer ce qu'il s'est passé pour cette première du Real en Liga. On parlait du Racing Club de Lens. Daniel est avec nous, salut Daniel.
Bonsoir messieurs, vous allez bien?
Salut Daniel.
Supporter des 100 et or, ça va Daniel?
Oui, ça va. Bon, victoire. Je suis d'accord avec le supporter auxerrois. Pour moi, j'aurais pas mis rouge. Jaune suffisait. Bon, après, il annule une action directe de but, mais enfin.
Il est un peu excentré quand même. Hein.
On a parlé de l'arbitrage, ça, Daniel. En fait, peut-être.
C'est nul.
Moi, j'aimerais plutôt qu'on parle de la façon de jouer de Lens, de ce début de saison qui est déjà réussi avec ses victoires dans le Trophée des Champions, une victoire 5-2. Enfin, vous marquez les esprits quand même là.
Je me suis régalé. Dommage, je me suis régalé. Ce que je trouve un peu dommage, c'est sur le deuxième but, justement, on a 11 contre 10, pardon, et on prend un deuxième but sur un contre, alors que normalement, t'as la supériorité pour garder une ligne défensive, on se fait un peu ouvrir bêtement, et comme l'année dernière, où quand on avait le score en main, il y avait un peu de relâchement, et on se faisait assez vite punir.
C'est peut-être ça le point négatif, non, de cette soirée,
ouais,
c'est-à-dire la défense.
C'est le point négatif. Ouais.
Parce que c'est vrai que
négatif.
bon, là on est sur un match de Ligue 1 contre une AG Auxerre qui est quand même pas un cador de Ligue 1. J'ose imaginer un petit peu cette défense là avec Sagnur, avec Gagnou qui a été énorme, avec un Noiroki qui vient d'arriver jouer en Champions League.
Comment tu l'appelles?
Noiroki.
Noiroki, tu l'appelles. Navroki.
J'ai pas l'accent polonais.
Il va falloir
l'accent.
Que je fasse. Je vais faire la police de la prononciation dans l'after, les garçons.
Vous m'avez compris, en tout cas, vous savez. Numéro 3. Donc, ouais, non, je disais un peu plus tôt que c'est peut-être ça le point d'interrogation. Comment Lens va pouvoir, alors déjà, digérer le niveau de la Champions League avec ses trois défenseurs centraux. Et puis, il faut pas oublier qu'il va sûrement avoir aussi un turnover. Parce que, à l'instar de ce qu'a fait Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain ou Fonseca avec Lyon, j'imagine que Top Moller va faire tourner ses défenseurs. Et t'es quand même vraiment limité. Dans la profondeur de banc en ce qui concerne tes défenseurs. T'as la blessure de Beidou qui va pas revenir avant octobre.
Il y a Gradit aussi qui
revient quand même de loin avec une grosse blessure tibia péroné. T'as Aguilar, bon, qui était pas là, il me semble, parce qu'il y avait une histoire.
En fait, t'as Kylian Antonio et Sagnan qui sont quand même des gros prospects qui peuvent te faire du bien et qui seront les prochains gagnants.
Mais est-ce qu'ils sont en mesure de pouvoir tenir une saison?
On avait dit la même chose pour Gagnou l'année dernière. Le mec, il est monstrueux. Il fait encore un match dingue. Moi, globalement, je suis rassuré par le RC Lens. Déjà, je trouve qu'il y a des schémas de passe, il y a des circuits déjà bien établi. On a quand même vu, même si je trouve que c'est irrégulier dans le match, que c'est pas le cas sur des grosses séquences, mais dès que ça joue à une touche, deux touches avec beaucoup de mouvements, ça fait quand même mal aux yeux pour l'adversaire, hein. Vraiment, ça donne le tournis, hein. Il y a eu des séquences de jeu. Bon, tu parlais du tableau d'affichage. Sima n'est pas sur le tableau d'affichage, mais moi j'ai été subjugué par la performance du Sénégalais.
D'accord, avec
moi je vois Balogun, hein. Sima, moi, sincèrement, il va 10 000 à l'heure, il cale les ballons. il fait une passe cachée sur le deuxième but pour Ivanovic, mais d'une très très grande classe. Vraiment, moi j'ai kiffé le match de Sima. Et quand tu te dis que Ivanovic peut jouer à ce poste-là, que Hudson-Edouard l'année dernière a mis ses buts à ce poste-là, tu te dis que, tu vois, quand tu parles du négatif avec l'aspect défensif,
je pense qu'il manque un peu de
l'aspect défensif, mais tu as quand même des choses positives. Je pense qu'au milieu de terrain aussi, t'as pas vu Bulatovic et Aïdara titulaires, et t'as Cuisance et Titraoui qui ont fait leur match, même si bien évidemment qu'ils ont pas été à leur meilleur niveau pendant toute la rencontre, mais je trouve qu'il y a des, en fait, comme je le disais tout à l'heure pour Lyon, tu sens encore que Lens a très bien bossé.
Bien sûr, tu le sens encore
qu'ils vont. Et puis en plus, t'as le discours de Leca dans l'équipe aujourd'hui en disant mais nous les gars, si on fait huitième, c'est saison réussie, donc il y a même pas de pression.
Après, ils ont pas la pression populaire du public,
exactement.
Aussi.
Donc c'est super en fait, t'as un contexte sain. Ouais, demain tu perds les matchs, même si demain t'as un Avrocki ou un Antonio qui fait une erreur, bah c'est pas très très grave parce que t'es à Lens, et ça te permet, moi je pense, d'aller chercher de la sérénité footballistique. Et ce soir, encore une fois, sans avoir fait un énorme match abouti jusqu'au bout, mais quand ils piquent, en plus je trouve qu'il y a une maturité dans leur jeu où ils savent à quel moment faut aller marquer, quand il faut aller changer le cours du match. Et ça, c'est quand même très très important.
Et ça doit être un bon exemple pour tous les clubs de Ligue 1. On parlait de la synergie justement de la cellule de recrutement, des dirigeants en règle générale. Quand tu vois la manière dont ils travaillent depuis quelques années, depuis l'après-pouille, c'est exceptionnel ce que tu es en train de faire, Lens. J'avais mis en avant il y a la nomination de Top Moller, je trouvais que c'est intéressant. Et en fait, tu pire ça, je pars du côté de Crystal Palace, tu récupères Top Moller et en fait tu récupères un entraîneur qui joue de la même manière avec le même schéma tactique que Pierre Sage, donc ça te fait gagner du temps, ça te permet d'avoir un Udol dans son meilleur poste, c'est-à-dire piston gauche, ça te permet d'avoir un Abdoulhamid aussi piston droite qui a fait quand même 6 très bons derniers mois au Racing Club de Lens. Donc en fait, rien que d'être parti chercher un entraîneur qui est déjà dans la continuité de ce qu'a fait Pierre Sage, c'est déjà un gain de temps et ça c'est intelligent de la part du Racing Club de Lens. Walid a parlé des départs, des arrivées, ta Cuisance qui est là, qui est un super joueur, alors qu'on se rappelle du Cuisance de l'Olympique de Marseille. C'est pas grave, les cas, il compte quand même dessus. Il a regardé ce qu'il a fait au Hertha Berlin, à Venise, et il va le récupérer derrière. Titraoui, qui a été aussi exceptionnel du côté de Charleroi. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses du côté du Racing Club de Lens. Même si, attention, j'ai juste un point d'interrogation, Walid, par rapport à Thorgan Hazard, qui est de retour au club. On l'oublie pas, il a été formé au Racing Club de Lens. Moi, je l'ai suivi. Je te cache pas qu'Anderlecht, sur sa dernière saison, il est cramé. J'attends de voir ce que ça va donner au Racing Club de Lens. Encore plus dans un niveau qui est supérieur que la première division.
Tu parlais de la
En règle générale, le travail qu'a fait l'ECA et l'équipe dirigeante est juste
exceptionnel. Tu parlais de la densité, ok, Hazard, moi j'ai pas suivi Anderlecht.
Faut qu'on fasse parler Daniel après.
Mais très, très rapidement, quand tu fais rentrer Skoras, Hudson-Edouard, Aïdara, Bulatovic, Skoras, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il met beaucoup d'intensité, c'est quand même pas mal.
Ouais.
C'est quand même pas mal.
Daniel, t'as vu, ils sont 10 tyrambiques sur ton club, du coup ils te laissent pas parler.
Ouais, je sais bien, l'ECA, il a raison. On est des supporters que les journalistes détestent parce qu'on fait la même phrase que les supporters, que les entraîneurs. C'est-à-dire, on verra match après match. Au fait, le classement, on le verra à la fin. Et ça sera tout. Enfin, cette année, on joue avec des champions, c'est qu'on n'a pas un budget limité. Bon, je te cache pas, Walid, que j'aimerais bien qu'il lâche les oiseaux pour acheter un petit défenseur en plus.
Ça
ferait du bien.
À la base, il voulait prendre Obispo, ouais, mais bon, ça s'est pas fait. Au final,
c'est dès le début du mercato que ça s'est pas fait.
Il faut pas oublier que Udol, il peut jouer aussi dans la défense à 3. Hein.
Ouais, et puis Aguilar Udol, aussi.
Il apporte tellement offensivement.
Peut jouer aussi. Bulatovic, là, a pu jouer aussi.
Ouais. Et après, dans les projets clubs, il y a un truc, c'est comme pour le petit Mizian Mesloub, Antonio, Gagnou. Il y a aussi, quand en fait, tu ne vas pas chercher des mecs, c'est parce que tu veux aussi faire émerger ton centre de formation et qu'ils savent très très bien qu'il y a, même s'ils vont perdre des matchs en Ligue des Champions, même s'ils vont perdre des matchs en championnat à cause peut-être de cette jeunesse-là, eh ben ils vont gagner de l'argent et ils vont gagner du développement. Quand tu parles avec les dirigeants, c'est quand même important parce que on l'a bien vu là au Paris Saint-Germain quand ils ont pris le petit Drô Fernandez et que finalement t'as des jeunes joueurs qui sont partis ailleurs. Eh ben quand tu bloques certains joueurs, derrière ton discours avec ton centre de formation n'est plus le même. Donc ça aussi, il faut l'intégrer quand t'es supporter ou quand t'es observateur. Et c'est important pour le développement club. Là, aujourd'hui, Gagnoux, parce qu'on l'a pas insisté là-dessus, le début de saison qu'il fait, ils l'ont prolongé, là, il y a deux semaines, là, il prend 10 millions à chaque match, le mec.
Donc,
c'est le prochain, quand il va être sélectionné avec l'équipe de France.
C'est le prochain défenseur qui part à 80 bâtons, Gagnoux. Donc, en fait, et c'est parce que tu as lui a fait confiance et que t'as pas été chercher un gros défenseur l'année dernière aussi.
Daniel, merci d'être venu au 32-16. Juste un petit message d'Alicia sur le WhatsApp qui nous dit: je vous trouve très élogieux, trop élogieux avec les Lensois. En défense, c'est pas fort. On a besoin d'un patron. Voilà, on en reparlera peut-être du Racing Club de Lens dans les prochains jours.
Mais c'est un pari.
L'after revient dans un instant. On va parler du Paris FC. On va parler de Nice également, qui attend le retour d'Eli Wahi et Jonathan Clauss. On a parlé le PSG également au programme. Et puis le Real, évidemment. On est là jusqu'à minuit.
RMC, l'after foot.
Jérôme Sillon.
L'after avec Walid Acharchour, avec Maxime Chano, avec vous également au standard de RMC au 32-16 et sur le WhatsApp de l'after. Alors, parmi les résultats du soir, Nice a donc été tenu en échec à Lorient 0-0. Ça faisait mal aux yeux, hein, avec cette alliance Riviera à huis clos, évidemment. La grosse actu du jour à Nice, au-delà du match de ce soir, c'est le retour d'Eli Wahi. Un accord a été trouvé entre l'OGC Nice et l'Eintracht Francfort pour un prêt d'une saison. Les deux parties ont trouvé un terrain d'entente, nous dit Fabrice Hawkins, concernant la prise en charge du salaire de l'attaquant ivoirien. Et on parle d'un prêt avec une option d'achat qui est de 15 millions d'euros. Donc on verra dans un an si Nice a les moyens de se le payer. En attendant, ils vont pouvoir l'avoir pendant un an. Jonathan Clauss en a parlé en zone mixte, en zone d'interview. Son ex-futur coéquipier donc à l'OGC Nice. Écoutez ce qu'il dit, Jonathan Clauss.
Manquer Eli Wahi. Non, mais au-delà de ça, au-delà d'Eli, je trouve que même Zoom et Momo, quand ils sont rentrés, voilà, ils bossent pour l'équipe. Si occasion il y a, c'est sûr que c'est très facile à dire, il faut les mettre. Ils n'ont pas eu grand-chose à se mettre non plus sous la dent. Donc, voilà, à nous de les servir mieux, de les trouver dans les meilleures positions pour que eux puissent faire la différence aussi.
Voilà, Jonathan Clauss qui parlait notamment du manque d'efficacité et du manque d'occasion pour les Niçois. C'est quand même, Walid et Max, une super nouvelle pour l'OGC Nice et même pour la Ligue 1, le retour d'Eli Wahi.
Surtout pour l'OGC Nice, parce que si Nice est encore en Ligue 1, c'est en grande partie grâce à Wahi, et spécialement sur ses 6-7 premières semaines jusqu'à ce qu'il se blesse, hein, parce qu'il s'était blessé à la cheville, et derrière, je me souviens, ça a corroboré un peu avec le passage à vide de l'OGC Nice. Donc non, c'est top, il apporte énormément de verticalité. Alors à voir comment Pantaloni va l'utiliser, lui qui avait préféré recalquer entre guillemets ce qu'il avait fait du côté de Lorient, c'est-à-dire une défense à 5. Je pense que Wahi va faire énormément de bien. T'as aussi l'arrivée d'Axel Witsel, t'as le retour de Bombito, Morgan Sanson. Donc je pense que lorsque tu vas réintégrer tous ces joueurs d'expérience, ça risque d'être un bénéfique, en tout cas pour le OGC Nice. Après, il faut être très honnête, hein, aujourd'hui c'était une purge, c'était le pire match de la journée, c'était n'importe quoi. Techniquement c'est très moyen, défensivement n'en parlons même pas, la relance des défenseurs centraux, mais des fois je me dis comment ils font pour jouer en Ligue 1, ils ont oublié d'enlever les boîtes à chaussures. C'était scandaleux. Alors, c'est des très bons défenseurs sur le 1 contre 1, défensivement attention c'est solide, c'est ce que finalement demandent parfois les entraîneurs, et notamment Pantaloni, que je connais très bien comme on le sait, et qui aime bien les défenseurs assez rugueux. Mais honnêtement, quand tu vois un peu la qualité technique de ce
match, Ndiaye Chimié, Antoine Mendy savent jouer au foot.
Regarde un petit peu leur transversal, ils ont envoyé 15 cacahuètes dans les tribunes. Heureusement qu'il n'y avait pas de supporters, parce que sinon ils en auraient au moins blessé un.
Walid, c'est une super nouvelle, le retour d'Eli Wahi pour l'OGC Nice.
Je suis d'accord avec Maxime. Moi, globalement, franchement, l'OGC Nice ne peut pas avoir mieux au poste de numéro 9. Ils avaient quand même Kevin Carlos l'année dernière où ils ont mis 6 millions d'euros, ça a été une catastrophe. Aujourd'hui, Eli Wahi, il a réussi à les sauver, à se relancer aussi dans un contexte un peu plus à sa mesure, hein, parce que Eli Wahi, faut le dire, le plafond de verre, il n'a pas réussi à gérer les clubs à grosse pression, notamment que ce soit à Marseille, même à Lens quand il est arrivé avec le transfert à 32 millions d'euros, et même à Francfort parce qu'il devait remplacer un Marmouche ou un Ekitike. Donc aujourd'hui il revient dans un contexte beaucoup plus adapté qui ressemble un peu à ce qu'il a connu à Montpellier dans le sud de la France, avec un jeu beaucoup plus vertical, avec une équipe qui va jouer pour lui. Quand tu vois Jonathan Clauss parler en zone mixte en parlant de Eli Wahi, ils savent tout de suite que ça va être le sauveur, et il a besoin de ça. Il a besoin d'avoir une équipe qui est pas très cérébrale à la De Zerbi, à la Francaise, où on va jouer un football assez simple. On va lui demander véritablement d'aller mettre le danger en transition. Et oui, aujourd'hui le featuring, il est parfait pour les deux. Même si on se pose deux minutes sur la carrière d'Eli Wahi, si on m'avait dit qu'aujourd'hui Il irait signer dans un Nice, dans le Nice de Pantaloni, avec tout le respect, avec une vraie redescente financière par rapport à ce qu'on attendait de Nice sur les dernières années. Moi, j'y aurais pas cru.
C'est aussi une preuve d'humilité quelque part.
Oui, c'est très bien, c'est très très bien pour lui. C'est une preuve d'humilité, mais c'est aussi une preuve que la carrière, il y a eu 2-3 manques quand même. Mais si lui, il est heureux et qu'il rend des services à Nice pour avoir une saison plutôt tranquille, parce que moi, je connais pas les ambitions de Nice aujourd'hui. Je sais pas.
Ils vont pas être très heureux, c'est quoi 8-13, 9-13, 9-14, voilà très bien, donc Wahi
mettra ses... Oui, après quand je vois la faiblesse de la Ligue 1, je pense quand même qu'avec l'effectif que t'as,
tu dois encore des joueurs, mais attention,
pas 9-14
sur le match.
Oui, d'accord, oui, très bien.
J'ai une victoire de l'Orient.
Ce que je veux dire, c'est que si tu prends Eli Wahi, enfin Mohamed Ali Chou, il est pas parti à Hull City, c'est ça,
il est resté
pour l'instant, il est là. Voilà, donc t'as quand même des joueurs, t'as Klose, t'as Ndia Chimie qui va se remettre.
C'est le même groupe l'année dernière, ça les a pas empêchés.
Oui, d'accord. J'imagine pas, franchement, s'ils refont la même saison que l'année dernière avec un Pantaloni qui quand même normalement arrive dans un contexte où il va essayer de trouver une fiabilité, un jeu solide, avec un Wahi qui te met 10 buts, normalement c'est quand même le tarif, c'est 10 buts dans la saison minimum en Ligue 1, il y a de quoi quand même, je pense, avoir une saison plutôt tranquille.
Max, Wahi, il a les caractéristiques qui correspondent à ce que Pantaloni peut mettre en place à Nice?
Par rapport à ce que j'ai vu, oui, parce que ça va permettre d'avoir un peu de verticalité dans une équipe qui risque de jouer quand même un bloc assez bas ou un bloc médian, donc c'est vrai que c'est important de pouvoir étirer
le
bloc adverse.
Il a ressuscité Bombadieng quand même, Pantaloni, l'année dernière, ça va le faire quand même.
Mais c'est un peu le même profil, après c'est différent.
Beaucoup plus talentueux quand même, oui.
Parce que t'as surtout aussi des joueurs au milieu de terrain qui sont censés jouer, alors je pense que la blessure d'Abergel, moi, va être un vrai problématique pour l'OGC Nice. Alors l'arrivée de Witzel, c'est, même si c'est un super joueur, ça a été un super joueur, il faut pas oublier qu'il fait son âge et que je pense pas qu'il aura le même apport qu'Abergel. Mais ouais, non, moi je suis vraiment inquiet pour l'OGC Nice, même si attention, et je réitère mon analyse par rapport au fait que je trouve que c'est une bonne chose que Pantaloni soit arrivé au club. Il va en effet pouvoir un peu tenir les joueurs qui ont tendance à avoir un certain ego surdimensionné. Avec Pantaloni, pour l'avoir côtoyé, je peux te dire que ça va être très vite réglé. Maintenant, il y a une réalité, c'est que t'as quasiment sur le même groupe que l'année dernière. Quand tu vois la prestation aujourd'hui d'Ivian Diouf, qui t'a fait des relances catastrophiques dans l'axe, honnêtement, j'ai envie de rester optimiste, vraiment. Je souhaite que le GC Nice remonte. Comme je l'avais dit l'année dernière, honnêtement, je voyais pas Nice terminer dans le haut de classement.
Oui, mais ça, finalement, ça fait une raison.
Donc là, tu parlais entre la 9e et la 14e place. Je pense qu'on sera plus proche de la 14e, Walid. On en reparlera que de la 9e.
Nice donc tenu en échec 0-0 par Lorient. Le dernier match du soir dont on n'a pas encore parlé, c'est 3 Paris FC, le match nul 0-0 donc de cette équipe dont on attend beaucoup, le PFC. Il y avait pourtant l'équipe quasiment type, hein, même s'il y avait 4 défenseurs centraux alignés, Walid, par Liam Rosenior. Qu'est-ce que tu as pensé?
Camara est plus milieu de terrain de l'autre côté, de le latéral, ce qu'il y avait Otavio, mais Camara, il joue plus milieu de terrain. Mais oui, c'était une composition d'équipe avec une défense très très surprenante, avec un Otavio qui l'année dernière avait quand même été très très décevant par rapport à son transfert, qui est utilisé au poste de latéral. Mais après, c'est vrai que le 4-2-3-1, Matondo, Pierre Lesmelou, Pagis en numéro 10, Kebal d'un côté et
Colé
Ocho de l'autre avec Sinayoko. Il y a peut-être Moses Simon qui peut jouer à la place de Colé Ocho, qui est rentré, et t'as un Zabi qui peut intégrer cette équipe là mais globalement, ouais, on avait une équipe qui était normalement la plus compétitive. Moi, j'ai pas été emballé par le début de match du PFC, où j'ai trouvé que 3 sur la première demi-heure, un peu comme le match de Toulouse-Lyon, où j'ai trouvé que 3 avec ce que propose Dumont comme l'année dernière en Ligue 2, c'est valeureux, il y a de la qualité technique, il y a de l'ambition, et ils ont mis un petit feu quand même au PFC dans la surface de réparation, même si le PFC avec la qualité de devant, et ben même en difficulté, ils sont capables de se créer des occasions, et ils sont créés des occasions avec Kebal, avec Pablo Pagis, mais un manque de méchanceté, un manque de réussite pour faire basculer la rencontre. Après, en deuxième mi-temps, c'était quand même beaucoup mieux. Ils ont mieux terminé la rencontre. Ils ont des grosses occasions sur les 15 dernières minutes, notamment une de Zabi qui est hors jeu, où Moses Simon il fait le mauvais choix. Il y a le poteau de Kebal. Il y a les incursions de Kebal qui a pris un peu plus la mesure du match sur la fin de la rencontre. Mais j'ai pas trouvé ça suffisant non plus.
Tu vois, par
rapport à un match où tu te déplaces chez un promu à 3, où t'es quand même le PFC. Alors peut-être que moi je me fais une montagne, mais je me dis quand même même que c'est la saison où tu dois quand même passer un cap. En tout cas, moi, je l'ai. Moi,
c'est la saison où tu dois profiter peut-être moi, aussi d'une faiblesse. Faiblesse, c'est peut-être méchant, mais en tout cas d'une Ligue 1 peut-être un peu moins performante. Ouais.
J'ai pas trouvé ça sur le match. Après, ça n'engage en rien sur la suite. C'est qu'un premier match de Ligue 1, mais je m'attendais quand même à plus de méchanceté, à plus de danger, même à plus de contrôle, plus de contrôle, parce qu'on est quand même sur le Rosenior Ball. Normalement, c'est avoir de la maîtrise, du contrôle. Je l'ai pas vu. Et même avec la verticalité, j'ai pas. Voilà, ça a bien terminé. Ils auraient mérité de gagner le match sur la fin. Vraiment, c'est pas un scandale s'ils l'arrachent. Mais je m'attendais à mieux, moi.
Ouais. Non, je suis entièrement d'accord avec Walid. Quand tu regardes un petit peu le 11 de départ, il a de la gueule. Excuse-moi du terme. Et notamment les quatre devant, Coléocho, Pablo Pagis, Kebal, Sinayoko.
Décevant Coléocho. Il est plus fort quand il rentre que quand il démarre.
Simon a fait une bonne rentrée. En tout cas, il a été meilleur que Coléocho. Mais même Sinayoko, qui avait été très très intéressant du côté de la Auxerre, et notamment à son retour de Cannes, où est-ce que on parlait d'un AG Auxerre qui est encore en Ligue 1, c'est aussi en grande partie grâce à Sinayoko. Ils ont eu l'intelligence d'aller chercher des joueurs qui ont fonctionné en Ligue 1. Alors à quel prix, on va pas revenir sur le prix du transfert de Pagis, mais il est là et je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, il y a cette défense que je trouve un petit peu, tu sais, je suis un ancien défenseur, donc je m'attarde beaucoup toujours à ce département sur le terrain, et c'est vrai que je trouve un peu surprenant d'avoir encore un Ottavio titulaire. Le retour de Coppola est intéressant, mais c'est vrai que je m'attendais vraiment à Paris FC, voilà, qui allait surdominer un Estac de Troyes qui, n'oublions pas, et découvre aussi la Ligue 1 pour beaucoup de joueurs. Ils avaient un Adrien Monfray qui a 35 ans, qui a beaucoup de mal quand même à se retourner et à couvrir son dos. Et derrière, Sinayoko n'en a pas profité. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus tirer trop d'enseignements. C'est un premier match, c'est jamais facile. Tu sors d'une prépa qui est parfois un peu lourde. J'imagine que Rosenior, avec son jeu énergivore, doit demander à ses joueurs, justement pendant cette préparation, de beaucoup travailler. Donc ça peut arriver parfois sur les 2-3 premiers matchs, le temps de trouver tes automatismes, de ne pas forcément arriver à mettre en place un jeu qui est alléchant, entre guillemets. Ça a été le cas. Mais c'est là, et pour terminer, mon analyse par rapport à Rosenior, on l'a quitté du côté de Strasbourg, qui était l'entraîneur bankable, entre guillemets, de notre Ligue 1, qui allait chercher les équipes très haut, qui faisait vraiment un jeu luisant. Et là, tu vois, j'ai pas ressenti la touche Rosenior, donc je vais lui laisser du temps. Il va falloir que le Paris FC lui laisse du temps. C'est un projet à court terme, mais c'est sûr que je m'attendais un peu plus du Paris FC
au niveau individualité.
Projet à moyen terme, tu veux
moyen terme, ouais.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Moyen terme, pardon, excusez-moi. Au niveau des individualités, moi Pagis en numéro 10, comme ça j'ai pas la vision pour l'instant.
On a vu, tu sais, Pierre Lesmelo dans l'after cet été, il me disait même que parfois, il descendait peut-être encore un peu plus bas.
Au milieu de terrain, mais je le voyais peut-être un peu plus bas dans un 4-3-3. Là, c'était vraiment un 4-2-3-1 où il était beaucoup plus proche de Sinayoko. Il n'a pas été en réussite. En plus, il sera un peu blessé. Ouais, et moi, je pense qu'au poste de numéro 10, entre Kebal et lui, il va falloir faire un choix. Et moi, je reste persuadé qu'un 4-3-3 serait plus judicieux avec un Zabi ou avec un Maxime Lopez. Parce que même le système en 4-2-3-1, alors encore une fois, il n'y a pas d'avis tranché. C'est que des petites tendances de ce que j'ai vu ce soir, mais un joueur que j'aime beaucoup, moi, c'est Matondo, que je vois très très fort ce soir. Il n'a pas été extraordinaire. J'ai trouvé un peu emprunté, et moi je pense que quand ils avaient eu notamment Mounetsi, qui était ce joueur qui pouvait faire l'escalier mais qui avait pas besoin de prendre le ballon aussi souvent qu'un Pablo Pagis ou qu'un Ilan Kebal, mais qui pouvait se projeter énormément et qui dans le compas physique était très important, je préférais cette configuration sur le terrain du Paris FC. Donc à voir. De toute façon, maintenant, il faut laisser du temps. Mais ce soir, ça n'a pas été un grand match. Même Zabi, je pensais qu'il allait le faire rentrer plus dans un milieu à 3. Et finalement, il était limite 19,5 Zabi sur la fin de match. Il a profité plus de son profil athlétique. Alors que Zabi, il faut pas être caricatural. Et c'est un joueur qui, avec le ballon, a des grosses qualités. Donc à voir. On sent que c'est encore en chantier et qu'il va falloir un peu de temps pour avoir la meilleure version du PFC.
Et est-ce qu'on sait si le mercato du Paris FC est terminé?
A priori, j'ai l'impression,
va falloir s'habituer à ce 11 de départ. Alors 0-0 entre Troyes et le PFC, 0-0 entre Nice et Lorient, la victoire de Lyon 2-0 à Toulouse, 2 partout entre Le Mans et Brest, Lens a battu Auxerre 5-2 hier, Marseille avait dominé Strasbourg 4-0. Le programme des matchs de demain: Angers-Lille à 15h à vivre sur RMC, Le Havre-Monaco 17h15 à vivre là aussi sur RMC, et Rennes-Paris-Saint-Germain, ce sera à 20h45. Les suites justement de l'inversion de ce match qui aura donc finalement lieu au Roazhon Park. Hier, on en a parlé dans l'after, le directeur général breton Arnaud Pouille mettait la pression sur la commission des compétitions pour que et le match retour et le match aller prévu début mars à Rennes, le match retour se joue bien en Bretagne. Le PSG, évidemment, on l'entend pas de cette oreille. Écoutez ce qu'a dit aujourd'hui en conférence de presse le manager parisien Luis Enrique.
C'est clair, nous aimons jouer au football offensif, chercher à jouer de manière attractive et amusante pour nos supporters. Tu as besoin d'un terrain dans les meilleures conditions. Ça, c'est ce qui s'est passé normalement au Parc des Princes, mais ce n'est pas la condition aujourd'hui. Mais c'est clair que quand tu commence une compétition, il y a un principe très important, que c'est d'égalité pour toutes les équipes. Et ce n'est pas possible de jouer une compétition quand tu joues contre les mêmes adversaires à l'extérieur les deux matchs ou à la maison les deux matchs. Il faut jouer contre toutes les équipes. Un match à l'extérieur et un match au domicile. C'est ça que je pense.
Voilà, Luis Enrique donc qui milite pour que le PSG joue le match qui était prévu à Rennes début mars au Parc des Princes, qu'on inverse donc cette rencontre alors que le règlement stipule que ça ne se passe qu'en cas de circonstances exceptionnelles et que Rennes a déjà dépanné le PSG en organisant le match. Tu es d'accord avec
Luis
Enrique?
Oui, moi ce que je comprends pas, non, je suis pas d'accord avec Luis Enrique. Ce que je comprends pas, c'est comment la Ligue a pu valider ce match sans statuer ce qui allait se passer sur le match retour. Moi, je trouve ça scandaleux. Donc aujourd'hui, l'imbroglio, il est tel quel que Rennes a accepté. Ils se retrouvent lésés parce qu'ils vont devoir inverser le match retour et aller jouer au Parc des Princes, c'est pas leur problème. Ils les ont dépannés. Ils les ont dépannés. Et Kevin Diaz, on en a parlé il y a 2-3 jours, il a dit quelque chose de très juste, c'est que finalement, ça laisse à Rennes 3 ou 4 jours pour pouvoir organiser un match qui est censé être un peu l'événement de la saison quand tu t'appelles le Stade Rennais. Donc c'est pas normal, c'est pas normal et je comprends même pas. Au début, moi je m'étais positionné en disant que je trouvais que c'était petits joueurs de la part du Paris Saint-Germain s'ils allaient demander le match retour chez eux. J'y croyais pas. Bah finalement c'est le cas. C'est quand même surprenant moi, de la part d'une institution comme le Paris Saint-Germain.
Moi ce que je comprends pas, on l'a dit hier, il y a un moment soit le match est reporté. D'accord.
Soit perdu et sur ta
bille. Non. Enfin, moi, pour moi, soit le match, soit le match est reporté parce que le Paris Saint-Germain estime qu'ils ne veulent pas donner le match, deux matchs au Stade Rennais à la maison et le PSG est dans son droit là-dessus. Encore une fois, soit s'ils veulent le jouer, le Stade Rennais garde sa date au Roazhon Park sur le match retour. Et comme vient de le dire Maxime, je comprends pas comment en fait tu statues pas avant. Dimanche.
Je crois qu'ils ont paré au plus pressé.
Oui, d'accord. Mais à ce moment-là, en fait, ça ouvre en fait le champ des possibles. Ouais. Non, nous on voulait ci, puis nous on voulait ça, et puis nous on voulait ça. Non. C'est qu'en fait, à un moment, si le Paris Saint-Germain n'est pas d'accord, si Luis Enrique n'est pas d'accord avec le fait de jouer deux fois à l'extérieur, eh ben, on joue pas ce match-là. Ce match-là, on le reporte. Et c'est pas très très grave s'il y a pas PSG Rennes demain soir.
Et puis attends, mais il y a pas d'autres stades. Alors j'avais compris que le stade de France c'était pas
stade
possible.
Stade de France, Jean-Bois, Charles Lutin.
Non, ça c'est pas possible.
Guignon ou ailleurs.
Non, mais ça c'est pas possible. Parce que tu connais du PSG aussi. Il y a un moment, tu
C'est toi qui n'es pas.
Tu vas jouer au stade de Porte de Montreuil. Et puis
mais c'était pas en mesure d'en recevoir.
Mais non. Tu reportes. Sinon, si tu veux jouer le match, tu joues deux fois. Parce que je peux comprendre aussi le PSG qui ne veut pas jouer deux fois à Rennes. Mais à ce moment-là, le match est reporté.
Réponse dans les prochains jours. Donc pour savoir où se jouera le Rennes-PSG de début mars. Un mot de Ligue 2, Walid, Maxime et tous ceux qui nous écoutent dans l'after, parce que Saint-Etienne a donc gagné son troisième match cette saison. Les Verts sont leaders de Ligue 2 avec 9 points, 3 victoires en 3 matchs avec leur nouvel entraîneur Yann Castro. Donc, c'est le scénario complètement inverse à Nantes qui avait perdu ses deux premiers matchs cette saison en Ligue 2 et qui a sombré aujourd'hui contre Rodez. Défaite 5-2 à la maison à la Beaujoire. Écoutez la réaction de Michel Darzacarian, en colère et désabusé après cette nouvelle défaite.
Grande déception, j'ai honte, surtout sur la deuxième mi-temps. Comment on peut abandonner ce qu'on a fait en première mi-temps? Je suis passé au terrain, c'est un désastre. Il faut avoir faim d'avoir envie d'aller marquer des buts. On peut faire des erreurs. Moi j'étais joueur, j'ai fait des erreurs aussi. Mais abandonner et pas se battre ensemble, c'est mental. Et si je me fais renvoyer, j'irai à la retraite. Si on n'est pas content de mon travail, on me renvoie et basta. Je dirai les choses en face aussi. Pas qu'à ma direction. Elle m'a repris. Les joueurs, il faut qu'ils se bougent le cul aussi. Vous avez vu aujourd'hui. De la bonne agressivité, il n'y en a pas. De la mauvaise agressivité, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Et tu ne peux pas gagner un match.
Dépité d'Arzakarian, c'est quand même lunaire comme sortie.
Alors qu'au micro de Beansport, il dit qu'il ne parlerait pas des joueurs. Ah ouais, ouais, il dit en zone mixte Beansport, il est sonné, ouais. Et il parle pas,
parce
il
dit non, je suis en colère, il s'est dit
en colère, il dit ouais, vaut mieux pas que je.
Ou alors entre-temps, il a une discussion avec Franck Kita.
Mais quand tu te positionnes comme ça contre tes joueurs après 3 journées, je peux te dire qu'honnêtement, j'avais qualifié l'Olympique de Marseille de Meppecho. Excusez-moi messieurs, j'enlève ce titre là, je le mets au FC Nantes parce que ça a l'air d'être un bordel.
C'est phénoménal.
Sincèrement,
déjà entre ce qui se passe médiatiquement cette semaine avec le retour possible d'Antoine Comboiré après 2 journées, là les mecs ils perdent 5-2 contre Rodez, ils mènent 2 fois au score, c'est clownesque en fait. On en a déjà parlé l'année dernière avec Nantes, mais quand tu reprends Der Zakarian, alors que Der Zakarian déjà à Caen ça a été très très compliqué l'année dernière, quand ils ont voulu faire une mission sauvetage, il y a un moment il y a des coachs, c'est terminé, quoi, c'est fini, c'est la date de péremption, c'est fini quoi. Il y a un moment ça a été des coachs fiables, ils ont réussi à faire des belles choses, mais aujourd'hui ça fonctionne plus. Et mettre Der Zakarian à Nantes avec un fonctionnement qui est terrible, on n'est pas surpris, en fait, on tombe pas de notre chaise quand on voit les résultats nantais et l'ambiance qu'il y a autour de Nantes. Et j'ai une grosse pensée pour les supporters. Les supporters, ce que vivent les supporters, c'est qu'est-ce que tu veux dire? C'est dingue.
Il faut vite trouver une solution. En tout cas, à Nantes, je voulais donner 2 informations encore. D'abord, la finale du CECI Foot Championnat d'Europe, ce sera demain à 18h à vivre sur RMC, France-Angleterre. Et puis une dernière info, Mercato, il nous reste quelques secondes. Léon Goretzka a trouvé son nouveau club. Le milieu de terrain allemand qui était en fin de contrat avec le Bayern Munich va s'engager avec Aston Villa. Voilà, donc il va s'engager en Première Ligue.
Tu sais que moi je suis un grand fan de Frédéric Villeroux.
Ah oui, celui qui a marqué le but de la qualif en finale.
C'est le meilleur buteur de CECI Foot. Ah, il met des buts. Pour moi, il voit. Ouais. Non mais c'est que sinon la qualité, c'est vraiment technique, le rapport au ballon. Je sais pas, mais parce que moi je suis friand des petits highlights sur les réseaux sociaux des matchs de CECI Foot et aller regarder, mais je vous le dis sincèrement, Frédéric Villeroux est un crack.
Et on le suivra demain, ce sera à 18h, la finale de l'Euro de CECI Foot. Merci Walid, merci Max, merci à tous. L'After revient demain soir. Ciao.
RMC, l'After Foot.